Alors Robert, je vous présente en quelques mots, donc à la fois historien, spécialiste de l'éotaxile et musicien, donc auteur également, donc membre des Quartiers Nord. Donc, on est très content de vous avoir pour cette communication.
Merci. Bon, j'ai demandé à Amandine si je faisais pas un peu cheveux sur la soupe, parce que bon, moi j'ai travaillé sur le rock à Marseille. Et je lui disais, moi je suis pas spécialiste du punk, donc elle m'a dit non mais ça fait rien, justement c'est pour resituer le punk dans l'histoire du rock à Marseille. Donc j'ai essayé de faire un petit laïus pour vous présenter tout ça par rapport à mes recherches. Donc un truc que je ne savais pas quand mon bouquin est sorti, c'est qu'il y avait déjà eu, alors j'ai beaucoup critiqué, je dis ça parce que j'ai beaucoup critiqué le fait qu'il n'y avait pas d'article sur le rock à Marseille, notamment dans les années 70. Et en fait, j'ai découvert, c'est un gars qui est venu m'acheter le bouquin et qui m'a dit, ça doit t'intéresser. Il m'a trouvé des exemplaires de Marseille Provence Magazine, qui était un magazine régional donc, comme son nom l'indique, et qui parlait du rock. Donc j'ai découvert qu'il y avait eu un concert de rock en octobre 56 à Marseille avec un groupe qui s'appelait les Rock'n'Roll Cats. Alors on voit les photos, les mecs sont en pyjama et le chanteur est sans pyjama, sans pantalon, quoi. Voilà. Et ça se passait au St. James. Donc l'article date de novembre 56 et alors le mois suivant, donc décembre, numéro 51, le même magazine, donc Marseille Provence Magazine, annonce le rock'n'roll gagne Marseille et nous informe que ça fait déjà quelques mois que l'épidémie couve au sein de la jeunesse marseillaise et que l'abcès a fini par crever sur la scène des variétés, donc qui s'est transformée après en cinéma. Le rock'n'roll a enflammé la salle et fait explosion sur l'écran. Ah oui, non, pardon, c'était le cinéma. A fait explosion sur l'écran dans un film où Bill Haley, qui inocula le rock'n'roll à l'Amérique, a été acclamé comme s'il était présent en chair et en os. Ben, voilà. Donc ça c'est donc quand même années 56. Il y a les pros et les anti qui s'affrontent, d'interminables polémiques, mais finalement l'auteur de l'article affirme que tous se laissent prendre par cette musique qui rend fou. Car selon lui, les démons de la danse arrangent tout. Et le magazine illustre son article par une photo de l'orchestre les Rock'n'Roll Cats en pyjama, donc comme je le disais de rigueur, avec le chanteur qui a perdu son pantalon. Donc, ça c'était à la fin des années 50. Et au début des années 60, le genre est bien installé à Marseille, où sévissent des groupes comme les Atoms, les Steamers, les Dynamics, les Corrigans, les Diables Noirs ou les Mystères. Et en décembre 63, le même mensuel, toujours le même, donc Marseille Provence Magazine, fait le point sur les groupes marseillais, quartier par quartier. Ça je l'ignorais quand j'ai travaillé sur mon bouquin. Et l'auteur de l'article introduit son sujet en évoquant une lycéenne du lycée Edgar Quinet, de 15 ans, Josanne Yoriot, qui reçoit plus de 20 lettres d'admirateurs enthousiastes par semaine, car elle est la chanteuse du groupe Les Mystères. Alors, ces groupes chantent en français et ou cessent en anglais. Mais ils suivent pour la plupart la vague rock'n'roll, yéyé, portée par Johnny Hallyday. Alors, Johnny Hallyday, les chaussettes noires, les chats sauvages, Danny Boy et les pénitents. Alors, en fait, pourquoi? Parce que, faut préciser qu'à cette époque, les maisons de disques françaises ont négocié avec les maisons de disques états-uniennes de véhiculer des versions françaises et donc de s'abstenir de diffuser les versions originales. C'est pour ça que les groupes se réfèrent à des groupes qui passent régulièrement sur les antennes françaises, donc qui chantent en français. Alors, ce genre, donc rock and roll, yéyé, a connu son heure de gloire avec, je veux dire, Marseillais, hein, avec Rocky Volcano, qui à un moment a été même le rival de Johnny Hallyday. J'ai découvert par exemple une page de Paris Match avec une double page où il y avait trois quarts de page qui étaient dédiés à Rocky Volcano et un quart de page qui était dédié à Johnny Hallyday. Ça fait drôle. En 62, année du premier single des Beatles, bon, qui, comme on a vu, était un groupe bidon, le style anglais, donc c'est ainsi que j'ai appelé ça le style anglais dans mon bouquin, parce que c'est comme ça que l'appelaient les managers, les gars qui faisaient tourner les groupes. Il faisait tourner les groupes de la frontière espagnole à la frontière italienne. Il y avait beaucoup de boîtes. Et ils appelaient ça le style anglais parce que eux, ils faisaient. C'était des jeunes qui avaient été embauchés pour justement faire étant plus connaisseur de ce genre-là, de la musique qu'écoutaient les jeunes à cette époque, venaient soutenir. Donc les gars qui programmaient, qui faisaient les programmations de l'Alcazar, justement. Et donc l'Alcazar, évidemment, c'était pas du tout ce type de musique. Donc ils appelaient quelques gens de la jeune génération pour faire tourner ces groupes. Et c'est ces vieux-là, donc de l'époque, qui appelaient ça le style anglais. Donc le style anglais, c'était plutôt rock-pop. Aujourd'hui, je dirais rock-pop. Il se traduit essentiellement par un côté rock plus évolutif, plus doux et plus souvent teinté de variété. D'ailleurs, les groupes accompagnent souvent des vedettes de la chanson française. À Marseille, on peut citer les Guardians, les Saint Gentlemen. Alors, les Saint Gentlemen, leur single « Dis nous, Dylan », il s'en écoule quand même entre 50 000 et 80 000 exemplaires. Les Flamands, les Kilts, Why Not. Alors Why Not qui fait la première partie des Stones à la Salle Vallier à Marseille en mars 66. Et en même temps, à l'aube de la seconde moitié des 60s, donc en 64, le retour en force des musiciens américains contribue à tirer le public vers le rhythm and blues. Et à Marseille, ce genre est porté par des groupes proches du répertoire ou des circuits pop, comme l'Arsenal des Galères ou les concours de Radio Monte Carlo. Et ce circuit, bizarrement, par le groupe Les Gadgets, passe par l'Italie où le groupe fait pratiquement tout son parcours. Plus tard, on peut noter Jimmy Kurt and the Progression, ou Les Posters, ou Lord Arsène Klein. En 67, tandis que se diffuse une pop dite psyché, d'influence anglaise, à Marseille, les musiciens et producteurs locaux restent à l'affût d'un tube collant au plus près de l'air du temps. C'est alors que naissent les Santa Maria. Alors, Santa Maria, c'était des musiciens qui jouaient dans le groupe Les Atoms, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui faisaient du rock and roll au tout début des années 60. Donc les Santa Maria ont quand même fait quelques singles qui ont eu une diffusion nationale. On peut citer les CBs, les Morning Glories, les Fly Pops, South California, Shock. Alors Shock aussi avec des musiciens anglais, une part de musiciens est anglais, avec aussi une discographie notable. On peut citer Moctezuma aussi, qui sévissait beaucoup dans la région, mais qui était surtout un groupe de balrock. C'est à l'époque, il y avait des balrock. Aquarius ou Benjamin Bazar. Entre-temps, dès 68, la saturation des guitares dans une espèce de blues rock teigneux préfigurant le hard rock laisse la part belle aux guitares Heroes. Alors, à Marseille, l'influence, alors ça c'est notable, c'est... Il n'y a pas vraiment de blues rock, puisque le blues rock, c'est Hendrix. Donc, tous les groupes, la référence des groupes, c'est Hendrix. Et donc, cette influence d'Hendrix marque une myriade d'émules d'adolescents fascinés par la technique du guitariste. Alors il y a Experience. Alors c'est rigolo parce que Experience, bon voilà, c'est parlant, donc le nom est évocateur. Il y a l'Oiseau Nelson aussi, un groupe qui s'appelle l'Oiseau Nelson. Alors dont fait partie le batteur Philippe Drahi. Alors Philippe Drahi, il jouera plus tard dans Kassav et avec Bachung, entre autres. Hein. Ouais. Carona Machination, donc avec Alain Carona, le guitariste Alain Carona, ou Bad Grass. Alors Bad Grass, le leader en était Jacob Devarieux, qui est le futur guitariste de Kassav et aussi un des membres fondateurs quoi, de Kassav. Voilà. À la toute fin des années 60, en 69, naissent à Marseille de nombreuses formations à tendance fusionnelle, parfois fortement politisées, dont la volonté est de sortir le rock du format pop et de se rapprocher de la sophistication du jazz ou de la musique classique, ou alors de porter un message insurrectionnel totalement assumé. Et également assumé, évidemment, dans le style de vie. Alors, le plus connu à Marseille, mais effectivement, c'était un groupe aussi qui a eu une aura nationale, c'est Barricade. Voilà. Mais il y en a d'autres, comme Gédéon, Goa. Moi, j'ai vu un concert de Goa en 72, à la fac de médecine. ZNR, ou Au Secours, de Menichetti, le bassiste... Menichetti. Voilà. En même temps, également en 69, naît à Marseille un courant progressif. Alors, j'ai dissocié le rock fusion du rock progressif, parce que le rock progressif, c'est plutôt influence multiple, alliant jazz ou musique classique, mais qui consacre la place des claviers, et avec une note assez romantique dont on parlait tout à l'heure. Alors, les premiers à s'y coller sont Eden Rose, en 71, et Eden Rose se change en Sand Rose, en 72. Tout ça, en fait, c'est que des volontés de producteurs qui essaient d'imposer des chanteuses. Et puis, ensuite, viennent Au Noir, Hurricane, Alanda. Alors, Alanda qui devient Canada, en amorçant sa carrière parisienne. Ou alors, des groupes qui sont plus proches de la chanson française, comme Verte Fontaine, qui fait aussi du théâtre. Alors, la vague hard commence en 70 à Marseille, avec les groupes Export, qui jouent aussi des reprises de Black Sabbath ou de Gunn, et Trizy. Puis, à partir de 76, alors là, là, il y a des groupes qui sont beaucoup plus personnalisés, qui font une musique plus personnelle, comme Silver Skull, Wolfgang, Rush Rock'n'Roll, puis Lawlessness, Fuzz, en 79. Alors, s'il fallait classer mon groupe, Quartier Nord, dans une de ces tendances, je classerais plutôt dans cette tendance-là, puisque la plupart des musiciens qu'on connaissait, c'était plutôt cette tendance-là, quoi. On avait les mêmes références. Voilà. Après, j'ai noté dans le bouquin un phénomène qui était très présent en France avec le rock'n'roll déjanté qu'on a connu avec « Au bonheur des dames ». Le plus connu, c'est Au bonheur des dames, parce que à l'époque, le rock'n'roll fait déjà figure twist, hein, rock'n'roll, twist, yéyé, ça fait vraiment très ringard. Et donc, il y a pas mal de groupes qui s'emparent de ce genre, mais pour faire un truc complètement déjanté, quoi. Ça permet de déconner. Donc, c'est la vague déconnante. Son représentant le plus connu en France, donc c'est Au bonheur des dames, je l'ai dit, mais à Marseille, le genre en est en 71. Et il se part d'un côté pagnolesque, teinté de spécificité et d'expression locale. Ses représentants sont Albert et sa fanfare polyorcétique, donc futur Joe Corbeau. C'est une formation qui naît en 71. avec l'opéra rock, la malédiction du rocker. Et après, il y a John Eddie Milton et ses paramètres qui enregistrent le fameux tube « Agente-moi les Alibofi ». Voilà, donc ça c'est un portrait rapide du rock depuis sa naissance à Marseille. Et donc, si le premier, pour en venir au punk, si le premier concert des Sex Pistols a lieu en novembre 1975, le premier groupe que j'ai appelé, moi, proto-punk, puisque ses influences, c'est pas les Sex Pistols, mais c'est les Stooges. Donc, il naît la même année. Il naît en 1975, à Marseille, avec White Child. Voilà. Puis ensuite suivent Cops and Robbers, Special Service, Nitrate, et j'ai cité aussi Leopold Bloom, qui est un peu moins connu, mais qui faisait partie de cette scène. À partir de 1978, s'ensuit un retour des claviers dans un univers de type baroque, ou new wave, ou post-punk, j'en sais rien. C'est les spécialistes qui se trancheront. Il y a comme Seifer, TV Eyes, et surtout Leda Atomica, avec son fameux tube Marseille Bouche de Vieille. Voilà. C'est ce que j'ai pu apporter comme contribution à l'introduction du punk par rapport à l'histoire du rock à Marseille.
Alors merci beaucoup Robert pour cet exercice et donc à la fois qui nous a apporté un bel éclairage assez synthétique sur le rock à Marseille. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'on voit déjà qu'il y a tout un vocabulaire en fait qui se met en place dans le rock à Marseille. Donc tu parlais de la vague déconnante, donc ça c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le punk. Tu parlais également de la question du style de vie, de la tendance fusionnelle également, donc qui est quelque chose aussi qui va être en permanence travaillé donc par le punk à Marseille. Donc on a une difficulté à définir clairement les choses ici.
Est-ce que toi, tu as identifié, quand tu vois en 75 des groupes comme War Child, Cop and Robbers, Nitrate et ainsi de suite, une différence de public par rapport à ceux qui assistent au concert entre peut-être cette vague progressive, cette vague déconnante, est-ce qu'il y a des publics distincts?
Ben, attends, là, ça dépasse un peu le cadre. Puisque moi, Barricade, effectivement, j'ai assisté à un concert de Barricade, par exemple, hein, je veux dire, pour ce qui est des groupes qui allient politique et musique, Barricade, j'ai presque assisté à un concert, puisque c'était un réveillon du jour de l'an en 72 au théâtre Tourski, avant qu'il soit remanié, le théâtre. Et ils étaient tous en train de réveillonner sur la scène. Bon, les quelques clampins qui étaient présents se sont dit bon, de temps en temps ils montaient sur la table. Il y avait un saxophoniste qu'on connaissait puisqu'il était au lycée avec nous, il s'appelait Kovacsi, qui poussait un solo de sax mais type free jazz. Mais on se disait bon, voilà, maintenant ils ont réveillonné, mais peut-être ils vont passer au concert. Mais en fait, ils ont jamais joué. C'est-à-dire qu'ils ont réveillonné. De temps en temps, il y avait un petit solo très free debout sur la table. Et puis, ils bouffaient et ils buvaient. Voilà. Donc, j'ai jamais vraiment assisté à un concert de Barricade. Ça serait très difficile pour moi de raconter un concert, enfin, de raconter leur public aussi, puisque ça, je l'ai pas vécu. Ça m'a été rapporté, quoi. Voilà. Et concernant le public punk, je suis loin d'être spécialiste à Marseille.
Non,
ce que je disais, quoi. Voilà.
On aura des témoignages au tableau rond, de toute manière. Voilà.
Je voulais savoir si tu avais trouvé des traces de Jannik Top quelque part. Qui a quand même produit plein de trucs, rock'n'roll.
Non. Alors. Oui, ben Jannik Top, je suis pas arrivé à le toper. Non, et alors moi je l'ai vu jouer au sein de Magma, mais à la salle Saint-Georges au début des années 70. Mais non, rien de plus.
Parce qu'il y a une légende qui court un peu là, tu vois, qui dirait que la première fois où il a joué du rock, c'est des potes qui lui ont demandé de remplacer un bassiste. Et il a accordé sa basse comme un violoncelle, et après il a eu la carrière qu'on connaît, quoi.
Ouais, et j'en ai entendu parler, mais en l'absence d'archives et ou de témoignages, je préfère être muet.
Pour refaire le lien avec le punk, effectivement, c'est la section de Magma qui avait enregistré My Way de Sid Vicious, section rythmique.
C'est vrai ?
C'est vrai. Deux studios chez Barclay. Ça nous permettra peut-être de faire la rupture, justement, avec, c'est ce qu'évoquaient Luc et Solveig, hein, avec ce qu'il y avait avant, et puis l'émergence de ce mouvement punk, et puis à Marseille, c'est ce qu'on attend.
Alors on va voir, merci beaucoup en tout cas Robert de t'être prêté à cet exercice. Oui.